I'm grateful for
Je suis reconnaissant pour cette introduction et pour la belle musique que nous avons entendue et de l'esprit que nous avons ressenti. Je suis heureux d'être avec vous ici ce soir. Vous êtes nombreux ici au Marriott Center de l'Université Brigham Young. Mais des milliers d'autres écoutent ou assistent à cette réunion dans des églises dans le monde entier. Je ne peux pas vous voir tous, mais notre Père Céleste le peut. Il connaît votre nom et vos besoins. Il connaît votre cœur. Vous avez chacun des difficultés qui vous sont particulières. Je prie afin d'être inspiré pour prononcer les paroles qu'il aimerait que vous entendiez. Nous avons tous quelque chose en commun. Nous sommes tous dans l'état probatoire de la condition mortelle. Quel que soit l'endroit où nous vivons, cette mise à l'épreuve deviendra de plus en plus difficile. Nous sommes dans la dernière dispensation du temps. Les prophètes de Dieu ont vu ces temps depuis des millénaires. Des choses merveilleuses ont été prédites. Il y aurait un rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. La véritable Église allait être remise sur terre avec des prophètes et des apôtres. L'évangile serait prêché à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Les membres de la véritable Église doivent se rendre dignes de la venue du Sauveur à son Église et à ses disciples purifiés. Mais les vrais prophètes ont également vu que, dans les derniers temps, Satan ferait rage. Il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Cela inspirerait la peur. Le courage de beaucoup faiblirait. Il y aurait une grande méchanceté et Satan en tromperait beaucoup. Mais heureusement, beaucoup ne succomberaient pas. Beaucoup ne seraient pas trompés. Le fait que vous êtes présent ici ce soir est la preuve que vous voulez être de ceux qui ne succomberont pas ni ne seront trompés. Mon propos est de vous enseigner comment vous pouvez être heureux et atteindre cet objectif glorieux. Pour chacun d'entre nous, la clé sera d'accepter et de garder le don promis par Dieu. Puisque vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ, vous vous souvenez qu'après que vous avez été baptisé, des serviteurs autorisés de Dieu vous ont promis que vous recevriez le Saint-Esprit. Certains d'entre vous ont peut-être ressenti quelque chose de spécial quand cette ordonnance a été accomplie. La plupart d'entre vous avaient ressenti les effets de l'accomplissement de cette promesse. Je vais vous expliquer ce soir comment reconnaître ce don, comment le recevoir chaque jour de votre vie et comment il sera une bénédiction pour vous à l'avenir. Vous avez ressenti la confirmation tranquille dans votre cœur et votre esprit que quelque chose était vrai. Et vous saviez que cette inspiration venait de Dieu. Pour certains, cela a pu se produire au cours des leçons missionnaires, avant votre baptême. Cela a pu arriver pendant un discours, une leçon à l'église. Cela a pu aussi se produire déjà ce soir, alors qu'une vérité a été prononcée ou chantée. Comme je l'ai ressenti en écoutant ce chant. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Vous ressentez la paix, l'espoir et la joie quand il confirme à votre cœur et à votre esprit que quelque chose est vrai. J'ai aussi presque toujours eu une sensation de lumière. Tout sentiment de ténèbres que j'ai pu avoir est chassé. Mon désir de faire le bien s'accroît. Le Seigneur a promis que ces choses pourraient aussi vous arriver. Voici ses paroles rapportées dans Doctrine et Alliance. Et je cite, « Et maintenant, en vérité, je te le dis, place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien, oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture, et c'est là mon esprit. En vérité, je te le dis, je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. Le Seigneur a aussi promis que les gens qui ont accepté le don du Saint-Esprit dans leur vie ne seraient pas trompés. Il nous assure, vous et moi, qui vivons au jour où son Église se prépare pour le moment de son retour. Voici la promesse que l'on trouve dans Doctrine et Alliance, et je cite à nouveau. « Et en ce jour-là, où je viendrai dans ma gloire, la parabole que j'ai dite au sujet des dix vierges sera accomplie. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. Et la terre leur sera donnée en héritage. Ils se multiplieront et deviendront forts, et leurs enfants grandiront sans péché pour le salut. Car le Seigneur sera au milieu d'eux, sa gloire sera sur eux, et il sera leur roi et leur législateur. » En entendant ces paroles, vous avez peut-être senti un autre exemple de manifestation de l'Esprit qui vous a été promise. Ces mots dépeignent le jour où nous serons peut-être avec le Seigneur qui a parlé des dix vierges et de sa seconde venue, mais en gloire cette fois. Ils décrivent le jour où nous pourrons être avec lui et recevoir sa gloire sur nous. De tout ce dont témoigne le Saint-Esprit et que vous avez sans doute ressenti, rien ne nous est plus précieux que de savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et il est vraisemblable que rien ne nous fera davantage ressentir la lumière, l'espoir et la joie. Il n'est donc pas surprenant, lorsque nous ressentons l'influence du Saint-Esprit, que nous puissions aussi ressentir qu'un changement de notre nature est en train de s'opérer grâce au sacrifice expiatoire du Jésus-Christ. Notre désir de respecter ses commandements, de faire le bien et d'agir avec justice augmente. Beaucoup d'entre vous ont ressenti cela au travers de nombreuses expériences avec le Saint-Esprit. Par exemple, dans le champ de la mission, il vous fallait peut-être vous appuyer sur l'Esprit pour trouver les mots dont les gens avaient besoin quand vous enseignez. Plus d'une fois, et même peut-être tous les jours, vous avez eu les bénédictions que Néphi et Léhi ont eues au cours de leur mission décrite dans Élaman. Et je cite, « Il arriva que Néphi et Léhi prêchèrent aux Lamanites avec une si grande puissance et une si grande autorité, car du pouvoir et de l'autorité leur avait été donné, afin qu'ils puissent parler, et ce qu'ils devaient dire leur était aussi donné. » C'est pourquoi ils parlèrent au grand étonnement des Lamanites au point de les convaincre, de sorte qu'il y eut 8000 d'entre les Lamanites qui étaient au pays de Zarahemla et alentour, qui furent baptisés en vue du repentir et furent convaincus de la méchanceté des traditions de leur père. Même si vous n'avez pas eu la bénédiction d'une si miraculeuse moisson, le Saint-Esprit vous a parlé lorsque votre cœur a accepté de servir le Seigneur. À certains moments de votre mission, vous avez souvent vécu ce genre d'expérience. Si vous vous souvenez de ces moments et y réfléchissez, vous vous rappellerez que votre désir d'obéir aux commandements a augmenté graduellement. Vous sentiez de moins en moins les appels de la tentation. Vous aviez de plus en plus le désir d'être obéissant et de servir les autres. Vous aviez plus d'amour pour les gens. Un des effets produits par la réception des manifestations du Saint-Esprit à maintes reprises est le changement de votre nature. Ainsi donc, en servant le Maître fidèlement, non seulement vous avez eu le témoignage du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, mais aussi vous avez vu les preuves dans votre vie que le sacrifice expiatoire est une réalité. Ce service, qui amène l'influence du Saint-Esprit, est un exemple de plantation de la graine que décrit Alma. Et je cite, Et maintenant, voici, parce que vous avez tenté l'expérience et planté la semence, et qu'elle gonfle et germe et commence à pousser, vous devez nécessairement savoir que la semence est bonne. Et maintenant, voici, votre connaissance est-elle parfaite? Oui, votre connaissance est parfaite en cela, et votre foi sommeille. Et cela parce que vous savez, car vous savez que la parole vous a gonflé l'âme, et vous savez aussi qu'elle a germé. Que votre intelligence commence à être éclairée et que votre esprit commence à s'épanouir. Ou alors, cela n'est-il pas réel? Je vous dis que oui, parce que cela est lumière. Ce qui est lumière est bon, parce qu'on peut le discerner. C'est pourquoi vous devez savoir que c'est bon. Et maintenant, voici, lorsque vous avez goûté cette lumière, votre connaissance est-elle parfaite? Voici, je vous dis que non. Et vous ne devez pas non plus mettre de côté votre foi, car vous n'avez exercé votre foi que pour planter la semence, afin de tenter l'expérience pour savoir si la semence était bonne. Et voici, lorsque l'arbre commencera à pousser, vous direz, nourrissons-le avec grand soin, afin qu'il prenne racine, afin qu'il pousse et nous donne du fruit. Or, voici, si vous le nourrissez avec beaucoup de soin, il prendra racine et poussera et produira du fruit. Maintenant, si nous étions seuls, vous et moi, et que vous vous sentiez libre de demander ce que vous souhaitez, je peux imaginer que vous diriez quelque chose comme ceci. J'ai ressenti quelque chose des choses que vous décrivez. Le Saint-Esprit a touché mon cœur et mon esprit de temps à autre. Mais j'ai besoin de sa présence constamment pour ne pas succomber ou être trompé. Est-ce possible? Si c'est possible, que faut-il faire pour obtenir cette bénédiction? Commençons par la première question, la première partie de votre question. Oui, cela est possible. Toutes les fois que j'ai besoin d'être rassuré, je repense à mes deux frères, Néphi et Léhi, et les autres serviteurs du Seigneur qui œuvraient avec eux ont rencontré une opposition féroce. Ils servaient dans un monde qui était de plus en plus méchant. Ils ont dû faire face à de terribles tromperies. Alors je prends courage, et vous pouvez le faire aussi, en écoutant les paroles de ce verset des Lamentations. L'assurance est concentrée dans le récit de tout ce qui est arrivé en une année, comme si cela ne surprenait pas l'auteur de ces lignes. Écoutez. Et la 79e année, il commença à y avoir beaucoup de désordre, de discorde. Mais il arriva que Néphi et Léhi et beaucoup de leurs frères, qui ayant quotidiennement beaucoup de révélations, s'y connaissaient dans les vrais points de la doctrine, prêchèrent alors au peuple, de sorte qu'ils mirent fin cette même année à leur discorde. Ils avaient beaucoup de révélations quotidiennement. Donc pour vous et moi, cela répond à votre première question. Oui, il est possible d'avoir la compagnie du Saint-Esprit suffisamment pour permettre beaucoup de révélations quotidiennes. Cela ne sera pas facile, mais c'est possible. Ce qui est requis sera différent pour chacun, parce que nous partons d'où nous sommes dans nos expériences uniques de la vie. Mais pour chacun de nous, il y aura au moins trois conditions. Aucune ne sera acquise et retenue par une seule expérience. Toutes devront être constamment renouvelées. Tout d'abord, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut la foi en notre Père Céleste et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Le souvenir d'une expérience spirituelle au cours de laquelle cette vérité vous a été confirmée ne suffira pas. Il vous faudra être sûr de votre foi dans les moments de crise qui peuvent survenir n'importe quand, de jour ou de nuit, et où vous implorez pour avoir l'aide du Saint-Esprit. Il vous faudra être inébranlable dans votre confiance que Dieu vit, qu'il entend vos appels à l'aide, et que le Sauveur ressuscité vous donnera ce qu'il a promis à ses serviteurs pendant son ministère mortel. Je cite, « Quand sera venu le Consolateur, quand je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Les frères Néphi et Lehi ont reçu de nombreuses révélations quotidiennement. Le récit rapporte qu'ils connaissaient les vrais points de doctrine. De toute la vraie doctrine, rien n'est plus important que vous et moi, pour vous et moi, que la véritable nature de Dieu, le Père et de son Fils Jésus-Christ. Pour cela, je me plonge et me replonge dans les Écritures. Pour cela, je reviens encore et encore à la prière. Pour cela, je participe à la Sainte Cène encore et encore. Et par-dessus tout, je connais mieux Dieu et Jésus-Christ en obéissant aux commandements et en servant dans l'Église. Par le service diligent dans l'Église, nous en arrivons non seulement à mieux connaître Dieu, mais encore à l'aimer. Si nous suivons ses commandements, notre foi en lui augmentera et nous nous qualifierons pour que son esprit soit avec nous. On obtient une foi plus vive en Dieu en le servant régulièrement. Nous n'avons pas tous des appels dans l'Église. Cependant, chaque membre a une multitude de possibilités de servir. Par exemple, nous avons entendu pendant des années la phrase « Chaque membre est missionnaire ». Ce n'est pas un choix. Cela est lié au fait que nous sommes membres. Notre choix est de parler ou non de l'Évangile aux autres. De même, chaque membre doit prendre soin des pauvres qui sont parmi nous et autour de nous. Nous pouvons faire cela en privé et seul. Nous pouvons aussi le faire avec d'autres membres. C'est la raison pour laquelle nous avons les offrandes de jeûnes et les projets de service. Nous avons le choix de décider de nous joindre au Seigneur et à ses autres disciples d'aujourd'hui, comme lui et ses disciples l'ont fait dans son ministère terrestre. La plupart d'entre nous, on l'appelle d'instructeur au foyer ou d'instructrice visiteuse. Ces appels offrent de grandes possibilités de grandir dans la foi que le Seigneur envoie le Saint-Esprit à ses humbles serviteurs. Cela édifie et renouvelle votre foi en lui. J'en ai été témoin comme beaucoup d'entre vous. J'ai reçu un appel téléphonique d'une mère affolée. Elle m'a expliqué que sa fille, qui n'était pas mariée, avait déménagé dans une autre ville, loin de chez elle. La mère avait pu ressentir, à travers le bref contact qu'elle a eu avec sa fille, que quelque chose n'allait pas. Elle craignait pour la sécurité morale de sa fille. Elle m'a prié d'aider sa fille. J'ai trouvé qui était l'instructeur au foyer de cette fille. Il était jeune. Pourtant, son compagnon et lui avaient été réveillés en pleine nuit, non seulement par souci pour cette fille, mais encore par l'inspiration qu'elle allait faire des choix qui lui apporteraient la tristesse et le malheur. Guidés seulement par l'inspiration de l'Esprit, ils sont allés la voir. Tout d'abord, elle n'a rien voulu leur dire de sa situation. Ils lui ont demandé de se repentir et de choisir de suivre le chemin que le Seigneur lui avait tracé et que sa mère et son père lui avaient enseigné. Elle a pris conscience en écoutant que le seul moyen qu'ils avaient de savoir ce qu'ils savaient de sa vie venait de Dieu. La prière d'une mère était montée vers notre Père Céleste et le Saint-Esprit avait été envoyé aux instructeurs au foyer avec une mission. Plusieurs fois, j'ai entendu des dirigeants de la prêtrise dire qu'ils avaient été inspirés à aller chez quelqu'un qui en avait besoin et qu'ils avaient appris que les instructeurs au foyer, les instructrices visiteuses étaient déjà passés. Votre foi grandira. Un évêque m'a dit, parfois ça me gêne, quand j'ai une inspiration de voir, quand j'arrive quelque part, que votre femme est déjà là. Votre foi grandira si vous servez le Seigneur en vous occupant des enfants de notre Père Céleste, en votre qualité d'instructeur au foyer envoyé par le Seigneur. Vos prières recevront une réponse. Vous saurez personnellement qu'il vit, qu'il nous aime, et qu'il envoie l'inspiration aux personnes qui ont ne serait-ce qu'un début en foi en lui et le désir de le servir dans son Église. Restez proche de l'Église si vous voulez que notre foi en Dieu se développe. Et avec elle, grandira aussi votre droit, que soit tenue la promesse qui vous a été faite de pouvoir recevoir les dons de l'Esprit. La première condition était la foi en Jésus-Christ. La deuxième condition, pour avoir la compagnie, la direction fréquente du Saint-Esprit, est d'être pur. L'Esprit doit se retirer des personnes impures. Vous vous souvenez de la triste illustration qu'on en trouve dans l'histoire des gens du livre de Mormon, et je cite, « Et à cause de leur iniquité, l'Église avait commencé à diminuer. Ils commençaient à ne plus croire en l'esprit de prophétie, ni en l'esprit de révélation. Et le spectre des jugements de Dieu se dressait devant eux. Et ils voyaient qu'ils étaient devenus faibles comme leurs frères, les Lamanites, et que l'Esprit du Seigneur ne les préservait pas. Oui, il s'était retiré d'eux, parce que l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints. » La manière de recevoir le Saint-Esprit est d'exercer sa foi au Christ en se repentant. Nous pouvons devenir purs en nous qualifiant pour bénéficier des effets de l'expiation du Sauveur. Les alliances offertes lors du baptême par les serviteurs autorisés de Dieu apportent cette purification. Nous renouvelons notre engagement de respecter ces alliances chaque fois que nous prenons la Sainte-Seine. Et la paix que nous recherchons tous est l'assurance que nous avons reçu le pardon de nos péchés d'omission ou d'action. C'est le Sauveur qui a reçu le droit d'accorder ce pardon et de donner cette assurance. J'ai appris qu'il donne cette assurance quand il voit que c'est le bon moment, et il le fait à sa manière. Et j'ai appris à la demander en prière. Une manière dont il accorde cette assurance est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Si vous avez des difficultés à ressentir le Saint-Esprit, il serait sage que vous méditiez pour savoir s'il y a quelque chose dont vous devez vous repentir et recevoir le pardon. Si vous ressentez l'influence du Saint-Esprit aujourd'hui ou ce soir, vous pouvez y voir la preuve que l'expiation opère dans votre vie. Pour cette raison et beaucoup d'autres, vous feriez bien de vous mettre en des endroits et d'accomplir des tâches qui suscitent les murmures du Saint-Esprit. On ressent son influence des deux manières suivantes. Le Saint-Esprit ne demeure que dans un temple pur, et quand nous le recevons, il nous purifie par l'expiation de Jésus-Christ. Vous pouvez prier avec foi pour savoir quoi faire pour être purifié. Et ainsi, vous qualifiez pour avoir la compagnie du Saint-Esprit et pour servir le Seigneur. Et cette compagnie vous fortifiera contre la tentation et vous donnera le pouvoir de détecter les tromperies. Ma troisième condition pour avoir, ou une troisième condition pour avoir la compagnie du Saint-Esprit est d'avoir des motivations pures. Vous devez vouloir recevoir le Saint-Esprit pour des raisons, de bonnes raisons. Vos buts, doivent être les desseins de Dieu. Si vos motivations sont égoïstes, il vous sera difficile de recevoir les dons de l'Esprit qui vous ont été promis. Ce fait sert à la fois d'avertissement et d'instruction utile. Premièrement, l'avertissement. Dieu est offensé quand nous cherchons les dons de l'Esprit pour accomplir nos objectifs personnels et non les siens. Nos motivations égoïstes peuvent ne pas nous être évidentes. Et peu d'entre nous sont aussi aveugles que l'homme qui voulait acheter le droit d'avoir les dons de l'Esprit. Vous vous rappelez l'histoire triste d'un homme nommé Simon et de la réprimande de Pierre, je cite. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pourvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Il semble que Simon ait reconnu la perversité de ses motivations. Cela peut ne pas être aussi facile pour chacun de nous. Nous avons presque toujours plus d'une seule motivation à la fois. Et certaines peuvent être un mélange de ce que Dieu veut et de ce que nous voulons. Il n'est pas facile de faire la différence entre elles. Par exemple, imaginez-vous à la veille d'un examen ou d'un entretien d'embauche. Vous savez que la direction du Saint-Esprit pourrait vous être très utile. Je sais par exemple que le Saint-Esprit connaît certaines équations mathématiques servant à résoudre des problèmes de thermodynamique, qui est une spécialité scientifique. J'étudiais dans un livre, quand j'étais étudiant en physique, un livre que j'ai encore, que j'ai gardé. Au milieu d'une page, au lieu de raisonnement mathématique, j'ai eu la confirmation claire que ce que je lisais était vrai. C'est exactement la même impression que j'avais eue auparavant, lorsque je méditais sur les Écritures et que j'ai eue de nombreuses fois depuis. Et j'ai su ainsi que le Saint-Esprit comprenait tout ce qui est vrai dans ce que l'on pourrait me demander lors d'un examen de thermodynamique. Vous pouvez imaginer que j'étais tenté de demander à Dieu de m'envoyer le Saint-Esprit pendant l'examen, afin que je n'aie pas à étudier davantage. Je savais qu'il le pouvait, mais je ne lui ai pas demandé. Je sentais qu'il préférait que j'apprenne à payer le prix par mes efforts. Il se veut bien qu'il m'ait envoyé de l'aide pendant cet examen, mais j'ai eu peur que mes motivations ne soient pas ses desseins. Vous avez souvent eu à faire le même choix. C'était peut-être pour un entretien d'embauche, peut-être quand vous vous prépariez à faire un discours ou à enseigner une leçon missionnaire. Il est toujours possible d'avoir un objectif personnel qui est moins important pour le Seigneur. Par exemple, je peux vouloir avoir une bonne note dans une matière alors qu'il préfère que j'apprenne à travailler dur au service des autres. Je peux vouloir un emploi en raison du salaire ou du prestige, alors qu'il veut que je travaille dans un autre emploi pour apporter des bénédictions à quelqu'un que je ne connais pas, que je ne connais pas encore. Il aura certainement des raisons pour que vous écoutiez mon discours de ce soir. Il vous connaît. Je pourrais avoir le désir de vous divertir ou de vous impressionner, mais j'essayais d'annihiler ma volonté et de me soumettre à la sienne. Un jour, j'ai vu un homme le faire. Cela a changé ma vie. Un membre des autorités générales est venu faire un discours à une conférence où j'étais assis sur l'estrade. Je faisais partie de la présidence de la prêtrise locale. Je connaissais personnellement les difficultés des familles et des membres locaux. L'autorité générale revenait juste d'un long déplacement en Europe. Il était très fatigué. Il a commencé son discours. J'avais l'impression qu'il passait sans lien d'un sujet à un autre. J'ai d'abord été désolé pour lui. J'ai pensé qu'il ne faisait pas le genre de discours bien préparé que je savais qu'il avait souvent fait. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, avec plaisir, qu'en abordant des sujets qui n'avaient apparemment pas de lien entre eux, il touchait les besoins de tous les membres et familles en difficulté que nous étions en train d'essayer d'aider. Il ne connaissait ni ces gens, ni leurs difficultés, mais Dieu si. Comme je suis reconnaissant qu'il n'ait pas eu l'objectif de faire un grand sermon, ni d'être considéré comme un prophète puissant. Il avait dû faire ce que j'espère que vous et moi ferons toujours. Il avait dû prier en disant quelque chose comme « Père, j'ai besoin de ton aide, je suis fatigué. S'il te plaît, guide-moi par le Saint-Esprit. Bénis ces gens, je les aime. Je te demande seulement de pouvoir faire ta volonté pour les aider. Le Saint-Esprit est venu ce soir-là, et la volonté du Seigneur a été accomplie. Le frère avait passé sa vie à se nourrir et à nourrir les autres de la bonne parole de Dieu. Il avait servi fidèlement le Maître. Il était témoin spécial de Jésus-Christ parce qu'il avait payé le prix pour l'être. Tout cela s'est produit parce que ses intentions étaient restées aussi proches qu'il avait pu de ce que le Seigneur désirait. Cela avait permis au Seigneur d'envoyer les murmures du Saint-Esprit à son serviteur et ainsi de bénir les gens. Il est certain que je ne comprends pas toute la signification dans les Écritures de l'amour pur du Christ. Mais il y a un sens que je connais. C'est un don qui nous est promis quand l'expiation de Jésus-Christ a opéré en nous. Ce don est de vouloir ce qu'il veut. Quand notre amour est l'amour que le Seigneur ressent, il est pur, parce que le Seigneur est pur. Et quand nous ressentons que notre désir pour les gens est en train de s'aligner sur le désir du Seigneur, nous pouvons savoir alors que nous nous purifions. Quand nous prions pour avoir les dons de l'Esprit, et nous le devons, une chose que moi je demande, c'est de pouvoir avoir des motifs purs, de vouloir ce que le Seigneur veut pour les enfants de notre Père et pour moi, et de ressentir autant que dire que je veux que sa volonté s'accomplisse. C'est ce que signifient pour moi les paroles suivantes de Moroni, et je cite, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. Ainsi, attachez-vous à la charité qui est le plus grand de tous les biens, car toutes les choses doivent périr. Mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Amen. Je vous témoigne que Dieu le Père vit. C'est un homme glorifié et exalté. Il est le Père de notre esprit. Lui et son Fils bien-aimé, tous les deux ressuscités et glorifiés, sont apparus au jeune Joseph Smith dans un bosquet dans l'État de New York. Ils étaient là. Le Père a parlé à Joseph, l'appelant par son nom, puis lui présentant son Fils. Des messagers célestes sont venus rétablir toutes les clés de l'autorité de la prêtrise. Joseph a traduit le livre de Mormon par les dons et les pouvoirs de Dieu. Il avait été gravé sur des plaques par d'anciens prophètes. L'un d'eux les a donnés à Joseph, puis les a reprises quand la traduction a été terminée. Les clés de la prêtrise sont sur la terre aujourd'hui. En tant que témoin de Jésus-Christ, je vous témoigne qu'il vit. Et qu'il dirige son Église. Je prie avec toute l'énergie de mon cœur pour que vous ayez la réponse à vos prières pour remplir les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Et je prie pour que vous persévériez fidèlement jusqu'à la fin et que pour vous, elle soit glorieuse. Je vous bénis pour que vos demandes ferventes pour recevoir les dons de l'Esprit pour servir le Seigneur, soit accordé. Et je vous assure de mon amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.